Aujourd'hui, on plonge dans une exploration intellectuelle vraiment fascinante. On se base sur les notes de la 6e session du docteur John Walton.
Ouais, des notes qui portent sur un texte monumental.
C'est ça. On s'attaque à l'un des textes les plus anciens et, disons, les plus débattus de l'histoire de la pensée, le livre de Job.
C'est un gros morceau.
Ah ça, pour un gros morceau, c'en est un. Et l'objectif de cette analyse approfondie aujourd'hui, notre mission en fait, ce n'est absolument pas de regarder un pauvre homme subir un procès cosmique.
Non, l'enjeu est beaucoup, beaucoup plus vaste.
Voilà. Il s'agit carrément de décoder une énigme. Comment on est censé penser correctement à Dieu, ou même à la structure de l'univers, quand une catastrophe monumentale frappe et que rien n'a de sens.
Ce que le texte révèle sur les, on va appeler ça les politiques de Dieu, sa façon d'agir dans le monde, ça risque de bouleverser pas mal d'idées reçues.
Ok, décortiquons tout ça. Parce qu'il faut d'abord admettre un truc, on a tous un biais naturel.
Ah oui, un biais énorme.
Grave. Il y a cette dynamique qu'on intègre dès l'enfance. C'est le fameux concept du tableau des bons comportements.
Ah oui, la petite grille sur le frigo.
Exactement. L'enfant range sa chambre, hop, il a une petite étoile dorée. Il fait ses devoirs sans râler, une autre étoile dorée.
Et au bout d'un certain nombre d'étoiles, la récompense tombe. Le nouveau jouet, la sortie au parc, c'est la base de l'éducation, quoi.
C'est simple, c'est binaire et c'est hyper rassurant. Le truc, c'est qu'on grandit, on devient des adultes responsables, mais on garde ce tableau gravé au fond du crâne.
Totalement.
Et le pire, c'est qu'on l'applique à l'univers entier. On se dit, si je me comporte bien, si je suis une bonne personne, l'univers ou Dieu devrait me donner mes étoiles dorées.
Sous forme de santé, de succès financier...
Ouais, de bonheur familial, ce genre de truc.
C'est ce qu'on appelle la justice rétributive, ou plus familièrement, le karma. L'idée très simple que le bien attire le bien.
Voilà. Et la conclusion logique de ça, c'est que si Dieu est bon et tout-puissant, il a l'obligation morale d'empêcher les gens justes de souffrir. Ceux qui ont toutes leurs étoiles ne devraient pas avoir de problème.
C'est la théorie, ouais.
Sauf que, quand on lit les notes du docteur Walton, on se rend vite compte que cette belle petite grille de lecture, elle est sur le point d'être complètement fracassée, non ?
Ah, mais complètement. Ce système de l'étoile dorée, c'est notre zone de confort moral. Mais le livre de Job, selon Walton, ne s'intéresse pas du tout à notre confort. En fait, il renverse la table. Il y a une idée fausse hyper répandue qui consiste à croire que ce texte raconte juste l'histoire de Job qui subit un test d'endurance.
Ouais, genre une évaluation de sa foi personnelle face à la douleur.
C'est la lecture populaire, mais les notes sont formelles. Job n'est pas sur le banc des accusés. Le livre traite d'une énigme bien plus déstabilisante.
Donc ce n'est pas une évaluation de Job ?
Non, c'est une évaluation des politiques administratives de Dieu. La mission du texte, c'est de nous apprendre comment Dieu opère dans le monde, surtout quand le tableau des récompenses s'effondre sans aucune raison.
C'est quand même vertigineux de se dire qu'on va évaluer les politiques de Dieu comme s'il était, le PDG d'une multinationale.
C'est un peu l'idée, ouais.
Et pour comprendre pourquoi ce système rassurant vole en éclats, on doit regarder la première critique adressée à Dieu. Et elle ne vient pas d'un philosophe.
Non, elle vient du provocateur. Ou l'adversaire, selon les traductions.
Et son angle d'attaque est redoutable.
Redoutable et brillant de cynisme. Le docteur Walton plante le décor. Le provocateur se tient devant Dieu. Dieu attire son attention sur Job en disant, en gros, « Regarde mon serviteur Job, il est moralement irréprochable. »
Le mec parfait avec toutes ses étoiles.
Voilà. Et là, le provocateur pose une question qui est un vrai poison. Il demande « Est-ce que Job sert Dieu pour rien ? »
Ah, la fameuse flèche empoisonnée. Au début, on se dit qu'il attaque Job, genre il le traite d'hypocrite.
C'est ce qu'on pense. Mais Walton va plus loin. Le provocateur s'en prend à la politique de Dieu. Il demande si c'est vraiment une bonne politique de faire prospérer les gens justes.
Et c'est là que ça devient fou.
L'argument est hyper logique. Si l'univers inonde de richesses et de santé ceux qui se comportent bien, qu'est-ce qu'on crée réellement ?
On ne forme pas des gens justes.
Non, on entraîne des mercenaires.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ça contredit tout notre instinct. J'adore cette analogie du mercenaire. Imaginons un instant.
Ouais.
Imaginons qu'un type ultra riche me paye 1 million d'euros par an juste pour être son meilleur ami.
Sans pas le contrat.
Grave, je suis là pour lui, je l'écoute, je ris à toutes ses blagues nulles, le comportement est parfait.
Et le type riche se vante d'avoir le meilleur ami du monde.
Exactement, sauf que la question qui va l'hanter, c'est... Est-ce que je suis un vrai ami ou juste un employé très bien payé pour jouer le rôle ?
Si le chèque s'arrête demain, l'amitié s'évapore.
C'est ça.
Et c'est exactement le dilemme du provocateur. Il dit que si la justice est toujours récompensée par des avantages matériels, on corrompt la motivation humaine. Les gens veulent l'étoile dorée, pas la vertu.
Ils font le bien juste parce que c'est rentable.
Exactement. Et le docteur Walton note que cette interrogation n'est pas unique dans ces textes anciens. Il fait un parallèle avec la Genèse, l'histoire d'Abraham et Isaac.
Ah oui, c'est vrai.
Abraham reçoit une promesse de grande bénédiction à travers son fils Isaac, mais ensuite Dieu lui demande de sacrifier ce fils.
Ce qui semble totalement absurde vu la promesse.
C'est le but. C'est un test de motivation. Si Abraham obéit juste pour la récompense, lui demander de sacrifier la source de cette récompense met tout à nu.
Il obéit pour les bénéfices ou pour Dieu?
Voilà. C'est la mécanique du mercenaire. On retire la récompense pour voir s'il reste de la vertu.
Mais attendez, là il faut que je passe avocat du diable. Parce que l'argument du provocateur est brillant, ok? Mais c'est pas complètement illogique de ne pas récompenser le bon comportement.
C'est-à-dire?
Toute notre société repose là-dessus. L'école, la justice, le travail. Si on retire l'étoile dorée, on risque pas de décourager les gens de faire le bien. Si la vertu ne rapporte rien, pourquoi s'embêter?
Ce qui est fascinant, c'est que vous pointez le cœur du malaise du livre. C'est là qu'il faut séparer la nature de Dieu de la politique de Dieu.
Ok.
Le provocateur ne dit pas que Dieu est mauvais. Il pointe une faille systémique dans sa politique. Il dit « Ton système crée un conflit d'intérêts. »
En voulant récompenser le bien, Dieu sabote la pureté de sa création.
C'est ça. Si la récompense automatique corrompt l'âme, alors bénir systématiquement les justes, c'est une mauvaise politique.
Ouais, ça détruit la droiture.
C'est très dérangeant pour nous, mais c'est hyper rationnel.
D'accord. Donc, le provocateur pose sa bombe sur la table. Il dit que récompenser les justes est une erreur. Et là, le livre bascule dans la pratique. La politique est inversée pour Job.
Le filet de sécurité disparaît.
Le désastre total. Job, qui était l'exemple de la réussite vertueuse, perd tout. Sa famille, ses biens, sa santé.
Et c'est là qu'arrive la deuxième grande accusation.
Et cette fois, ça vient pas du provocateur.
Non, ça vient de la victime. Job, depuis sa détresse absolue, lance son propre défi. Il regarde la catastrophe, il sait qu'il n'a rien fait de mal et il s'ensurge.
Il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire?
Exactement. Il dit en gros, est-ce que c'est une bonne idée de laisser souffrir les justes? On est les gentils, on a suivi les règles, pourquoi on est écrasé?
Pour lui, c'est une très mauvaise politique.
Sans le moindre doute.
Donc, si on récapitule, parce que là, la tension est au max, on a un paradoxe monumental.
Un vrai casse-tête.
D'un côté, le provocateur dit « mauvaise politique de faire prospérer les justes, ça crée des mercenaires ». De l'autre, Job hurle que c'est une mauvaise politique de les faire souffrir parce que c'est injuste.
C'est une impasse totale. Le nœud gordien.
Dieu est coincé. Quoi qu'il fasse, sa politique est jugée défaillante. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas juste expliquer le pari à Job.
S'il explique, il ruine l'expérience. L'argument du provocateur n'est pas que Job est mauvais, mais qu'on ne peut pas savoir tant qu'il a ses bénédictions.
La formation est cachée par la récompense.
Exactement. L'amour est-il pour le donateur ou pour les dons? La seule stratégie expérimentale pour trancher, c'est de retirer les bénéfices.
Faut retirer le chèque d'un million pour voir si l'ami reste là.
C'est brutal, mais c'est le seul moyen. Le docteur Walton insiste là-dessus. Ce texte ne parle pas de la souffrance comme punition. La souffrance est un contexte expérimental.
Le vrai sujet, c'est la nature de la droiture. Est-elle conditionnelle?
C'est exactement ça.
C'est d'une intensité folle. Ça détruit notre vision utilitariste. Mais du coup, comment cette impasse massive est résolue à la fin? Nos sources parlent d'un énorme malentendu là-dessus.
Un malentendu qui dure depuis des siècles, oui.
Beaucoup de gens, et je m'inclus dedans avant de lire ça, pensent que Dieu débarque à la fin, au milieu d'une tempête, pour égrasser Job.
La fameuse carte du pouvoir.
Ouais, genre il décrit les monstres marins, l'univers, et il dit « Je suis Dieu, t'es rien, tais-toi ».
C'est l'interprétation classique. Et on la comprend, c'est très humain. Dans nos sociétés, le chef justifie souvent ses actes par sa position, le droit du plus fort.
C'est le « parce que je l'ai dit » des parents, mais à l'échelle cosmique.
Voilà, c'est une vision autoritaire qui implique que Dieu clôt le débat par la force brute sans rien résoudre. Mais selon Walton, ce n'est pas du tout ça.
Ah bon?
Dieu ne joue pas la carte de la domination. Il joue une carte beaucoup plus subtile, la carte de la confiance.
La carte de la confiance, ok.
Son message, ce n'est pas « tais-toi car je suis fort », c'est plutôt « je suis le Dieu sage qui orchestre des équilibres d'une complexité infinie. Fais-moi confiance, même si tu ne vois pas tout le tableau. »
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement, hein? Parce que je vais pousser un peu.
Allez-y.
Intellectuellement, remplacer le pouvoir par la confiance, c'est beau. Mais pratiquement parlant, imaginons quelqu'un dans notre auditoire qui traverse une vraie tempête en ce moment.
Un deuil, une maladie.
Voilà, un truc où tout s'effondre sans raison. Est-ce que cette réponse de Dieu n'est pas super frustrante? Dire « c'est une politique complexe, fais-moi confiance ». Ça aide comment, psychologiquement? Ça paraît un peu léger quand on a vraiment mal, non?
C'est une critique très légitime. Et c'est là que l'analyse de Walton prend tout son sens. Si on relie ça à la psychologie en temps de crise, ça change tout. La souffrance mentale aiguë vient souvent du fait qu'on reste bloqué sur le tableau des bons comportements.
On s'accroche à nos étoiles.
Ouais. Quand on souffre, l'instinct, c'est de chercher un coupable. Si on croit au système binaire de récompense et punition, il n'y a que deux options face au malheur.
Lesquelles?
Soit on est secrètement coupable, on se dit qu'on a dû faire un truc mal, et on ajoute une culpabilité toxique, un traumatisme secondaire à la douleur.
Le fameux « qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça ?»
Exactement. Soit, si on est sûr de son innocence, on se dit que Dieu ou l'univers est cruel et arbitraire, le tyran imprévisible.
Et c'est là que la carte de la confiance intervient.
De Job, en détruisant le mythe du mercenaire, c'est de supprimer cette obligation de trouver un coupable.
Ah, donc si la souffrance n'est plus une punition, je n'ai plus à me détester ou à détester l'univers.
Précisément, l'analyse montre que si Dieu gère des politiques complexes pour préserver l'espace de la vraie vertu, le malheur n'est pas une condamnation de nos actes.
Ça change tout.
Si Dieu causait la douleur pour punir arbitrairement, on ne pourrait pas lui faire confiance. On ne s'abandonne pas à un monstre. Mais si on comprend que la gestion du cosmos dépasse notre vision, la perspective change.
On lâche l'idée du distributeur automatique cosmique, genre « j'insère une bonne action, j'ai une bénédiction ».
Voilà. Le message de la carte de la confiance, c'est d'offrir une encre. C'est l'assurance que l'univers n'est ni un chaos absurde, ni un comptable vengeur, mais une sagesse suprême.
C'est un sacré changement de paradigme.
Et psychologiquement, comprendre que la douleur n'est pas une punition, c'est le premier pas pour éviter le désespoir total.
Eh ben, si on résume ce vaste voyage intellectuel, on a commencé avec notre petit tableau des bons comportements, notre mythe de la récompense automatique.
Et on l'a vu se faire déconstruire en beauté.
On a regardé en face l'argument du provocateur. Si on paie les gens pour être bons, ce sont juste d'excellents négociateurs.
L'effondrement de la morale utilitariste.
Ensuite, on a vu l'impasse étouffante avec Job, entre l'interdiction de récompenser à outrance et le scandale de la souffrance innocente. Et la résolution, c'est pas une équation mathématique parfaite, ni une démonstration de force brute.
C'est un appel à une confiance radicale.
On est invité à lâcher nos petites grilles d'évaluation pour embrasser une complexité qui nous dépasse, mais qui ne nous veut pas de mal.
Et ça exige un courage immense. D'ailleurs, si on pousse l'argument central jusqu'au bout, ça soulève une toute dernière question qui donne vraiment le vertige.
Oh, je sens que ça va piquer, je vous écoute.
Le provocateur affirmait que la seule façon de prouver qu'une personne aime la justice, c'est de lui retirer tous ses avantages, tout son confort, et de voir ce qui reste dans les ténèbres.
Ouais.
Ça nous laisse avec cette réflexion à méditer bien après notre discussion. Si la véritable intégrité ne peut être prouvée qu'en l'absence de bénéfices, la vraie bonté humaine, purement désintéressée, existe-t-elle vraiment en dehors de l'épreuve du feu?
Waouh!
Sommes-nous capables d'être bons uniquement pour le principe, sans rien attendre en retour de l'univers?
Ça, c'est une pensée qui va frapper fort. Ça va nous empêcher de regarder nos petits actes vertueux de la même manière, c'est clair. On est foncièrement bon ou on veut juste notre prochaine étoile dorée?
C'est toute la question.
C'est sur cette interrogation fascinante qu'on va clore notre analyse d'aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire d'avoir suivi cette réflexion très exigeante. Continuez à remettre en question vos grilles de lecture, gardez l'esprit ouvert face à la complexité de ces textes et de vos propres vies. À la prochaine.
À très bientôt et merci de nous avoir accompagnés.